Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison, une des demeures de la Vierge Marie, en ce jour où nous célébrons le mystère de son Assomption. Le mystère de l'Assomption, ça nous donne le sens de la vie humaine, ça nous trace matériellement ce qu'est la foi dans toute sa verticalité. C'est le ciel est notre maison, et c'est ça vraiment la grande révélation que Marie souligne avec ce mystère de verticalité qu'est l'Assomption. Dans l'Apocalypse, dans ce texte grandiose là qu'on a lu, eh bien Marie est présentée comme un grand signe qui apparaît dans le ciel. Un grand signe. Ça vient juste après la révélation de l'Arche de l'Alliance dans le Temple Céleste. Et quand on veut savoir comment est faite cette Arche d'Alliance, eh bien, le texte nous parle de l'Immaculée, de la Vierge rayonnante, de la lumière d'en haut. C'est elle, l'arche de la nouvelle alliance et de l'éternelle alliance, car il n'y en aura pas d'autre. Et elle a porté le Christ, de même que la première arche, c'était un vulgaire coffret, à l'intérieur duquel se trouvaient les signes de l'alliance, à savoir les tables de la loi, un petit peu de manne pour se souvenir de la providence divine, et puis le bâton d'Aaron pour l'autorité sacerdotale donnée à Aaron et à sa tribu. Et c'était l'ancienne alliance reposait là-dessus. La nouvelle alliance, Marie nous le dévoile, elle repose sur Jésus, sur Dieu lui-même. Il n'y a plus du tout de médiation. Et là, c'est pourquoi cette arche-là est si lumineuse, si belle, si radieuse. Et nous ne nous lassons pas de la contempler. Elle est Marie, grand signe dans le ciel, parce qu'elle est la gardienne de la foi. Pendant les 3 jours, notamment de la Passion, elle était la seule à savoir que le Christ vaincrait la mort. Elle a gardé la foi de l'Église, l'espérance de toute l'Église, elle seule, pendant ces 3 jours. Et à l'Assomption, eh bien, elle va retrouver celui qui l'a précédé dans lui-même, dans son âme et dans son corps, le Christ Jésus, lors de l'Ascension. Elle va le retrouver et se tenir à sa droite, à la droite du roi de toutes les créatures spirituelles, celui qui règne sur nous tous. Et nous le reconnaissons. Elle est couronnée de 12 étoiles, nous dit le texte, parce que ça, les 12 apôtres, bien sûr. C'est les apôtres, eh bien, obéissent à Marie, parce qu'elle est le grand signe qui leur est donné, qui est donné à toute l'Église. C'est elle le grand signe. C'est pas l'Église le grand signe. L'Église n'est que l'imitatrice, une des figures de la femme radieuse de l'Apocalypse. La femme radieuse de l'Apocalypse est à la fois l'Immaculée Conception et l'Église. Elle est plus grande donc que l'Église toute seule. Et ça, il faut quand l'Église se pose des questions, est mouvementée par les doctrines du monde et voudrait s'adapter à ces doctrines du monde, eh bien, il vaudrait bien mieux qu'elle se tourne à ce moment-là. Ces leaders, ces pasteurs qui se tournent vers la Vierge Marie et qui n'oublient pas qu'ils sont seulement une pierre de la couronne et que les pierres ne doivent pas tomber parce que si elles tombent, elles ne sont plus éclairées par la lumière d'en haut, elles se dissolvent dans les ténèbres d'en bas. Marie est là pour montrer la lumière à l'Église. C'est pourquoi elle est gardienne de la foi, elle est mère de l'Église. L'Immaculée Conception, le chapitre 12 nous la dévoile. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds. Le soleil l'enveloppe parce qu'elle vit dans sa foi, une foi totale, elle est pure transparence à la foi, la Vierge Marie en tant qu'Immaculée, rien ne la retient. La lune, justement, qui représente eh bien, tous les désirs humains, toutes les pulsions, toutes les convoitises, est mise sous ses pieds. De même, ça c'est une expression biblique qui met mettre ses ennemis sous ses pieds, c'est les contrôler, les maîtriser, les vaincre. La Vierge Marie, par sa pureté, la pureté spirituelle, nous permet de vaincre tous ces attachements qui nous tournent vers nous-mêmes, qui accroissent notre ego. Et quand l'ego grossit, c'est toujours au détriment de Dieu et de sa souveraineté sur nos âmes. La Vierge Marie, c'est ce grand signe-là, le signe de la victoire totale de Dieu dans une créature. Et cette créature-là, elle nous dit quel est le désir profond de notre âme. Elle le dit dans le mystère de l'Assomption particulièrement. Elle monte, non seulement avec son âme, souvent les hommes ont des désirs qui sont pieux, qui sont bons, mais ils sont rattrapés par la dimension tout à fait corporelle de leur être et ils finissent par s'embourber. La Vierge Marie nous dit que notre foi doit être complète, notre désir de Dieu doit être complet. Il doit nous porter dans ce ciel qu'est la prière, qu'est Jésus lui-même quand nous prions, non seulement avec notre âme mais avec notre corps. C'est-à-dire au-delà de toutes ces pulsions, de toutes ces tensions, attractions dont le corps est sujet. Marie nous montre ça. Et elle nous montre bien sûr au dernier jour quel doit être le grand désir de notre cœur. On doit laisser écouter notre cœur, le laisser parler, et surtout au moment de notre mort, de notre retour à Dieu. Là, il faudra vraiment laisser ce désir s'épanouir, fleurir. C'est ce que fait la Vierge Marie. Elle laisse ce désir de Dieu, de le rencontrer, de vivre unie à lui, de se perdre en lui. Elle le laisse s'épanouir complètement. Elle se lâche, entre guillemets, si je veux être un peu... Donc, c'est tout cela que nous célébrons dans l'Assomption de la Vierge Marie. Marie, c'est le lieu du repos dans le combat, ou entre deux combats, ça dépend comment on veut le situer. Elle nous est présentée dans le combat, la Vierge Marie, la Vierge Immaculée, par le texte de l'Apocalypse. Elle est dans les douleurs de l'enfantement, et les douleurs de l'enfantement, c'est justement la difficulté de confesser en ce monde la foi en Jésus-Christ. C'est la difficulté pour l'Église de proclamer le mystère de la foi dans notre monde. C'est les douleurs de l'enfantement, de la conversion. Parce que, évidemment, les ennemis, les démons et le dragon qui lui fait face, sont bel et bien là. Sinon, il n'y aurait pas de douleur d'enfantement s'il n'y avait pas le dragon et ses sbires. Mais le dragon est là. Et dans ce combat spirituel, Marie fait tout le contraire du dragon. Elle maîtrise donc toutes ses passions, elle maîtrise ses appétits, tandis que le dragon, lui, il les exalte. Le dragon n'est pas présenté comme un grand signe. Vous voyez, il y a un balancement stylistique qui est intéressant. Il y a eu un grand signe dans le ciel, et on voit la femme radieuse. Et puis ensuite, il est dit, il y eut un autre signe, un grand dragon. À chaque fois, il y a l'adjectif grand, mais pas à la même place. La grandeur du dragon, c'est d'être en lui-même. C'est une grandeur pour lui-même et par lui-même. La Vierge Marie, elle, c'est une grandeur toute consacrée à Dieu, hors d'elle, plus grand qu'elle. Et elle devient donc, par ce dépassement, grande. Elle devient un grand signe. Tandis que le dragon, lui, n'est grand que dans son énormité. Et l'énormité, c'est celle de son péché. Il est l'inventeur du mal. Et il veut dévorer l'enfant, c'est-à-dire qu'il veut étouffer la foi dans les âmes. Souvenez-vous de la parabole du semeur. La graine que le semeur laisse tomber au bord du chemin est immédiatement dévorée par les oiseaux. Et c'est la même chose que le dragon. Il veut dévorer cet enfant avant même qu'il ne naisse en chacun d'entre nous, comme il est né il y a 2000 ans des entrailles de la Vierge Marie. C'est le dragon est là, il est en arrêt, C'est le contraire de la contemplation, l'arrêt. C'est guetter pour faire tomber, c'est le prédateur qui s'apprête à bondir sur sa proie. Il ne regarde pas la proie pour elle-même, c'est la contemplation, ça. Non, il la regarde pour la détruire, pour l'absorber, pour l'anéantir. Donc on a ce dragon qui est l'image du démon. Dragon, c'est un des synonymes dans la Bible de monstre. Un monstre, c'est quoi? C'est un être vivant, mais qui est complètement inclassable. Alors on l'appelle monstre, ou dragon, ou léviathan, ou béhémoth. Tout ça, c'est des synonymes dans l'Ancien Testament. C'est des monstres marins dont parle encore l'Ancien Testament dans le livre de Job. Ils vivent dans les abîmes ténébreux des mers, là où les Juifs situaient l'enfer. Pour les Juifs qui avaient peur de l'eau, l'enfer était sous la mer, dans les abîmes profonds. Et les monstres marins, ce sont ces âmes complètement défigurées par le péché. Être un monstre, c'est le contraire d'être l'Immaculé. L'Immaculé, c'est le modèle de la beauté, l'icône de la beauté céleste, de l'équilibre, de l'harmonie des formes et des proportions. Le monstre, c'est la créature, c'est une créature, mais qui a perdu toutes ces proportions-là. Il est sans forme. Il perd toutes ses formes au sens... C'est au sens spirituel, évidemment, qu'il faut l'interpréter. C'est quoi perdre ses formes au sens spirituel? Eh bien, c'est perdre la finalité qui définit, qui donne à toutes les créatures spirituelles la vie et l'être, c'est-à-dire Dieu. On sort de Dieu et on doit retourner à Dieu. Et la Vierge, dans l'Assomption, c'est le grand retour à Dieu, complet, à 100%, sans rien laisser derrière elle. Tout est consacré à Dieu en elle. Le dragon, c'est celui qui, au contraire, retient tout pour lui. Ah, il voudrait bien acquérir les bienfaits de Dieu, les attributs divins. C'est pourquoi il essaye de dévorer l'enfant. Mais voyez, c'est le contraire du don, c'est l'appropriation. C'est pour lui, et non pas vers Dieu. La créature monstrueuse, rendue monstrueuse par le mal, eh bien, c'est celle qui n'a plus d'autre finalité qu'elle-même. Elle devient comme la grenouille de la fable de La Fontaine qui voudrait devenir aussi grosse que le bœuf divin. Non, là, c'est impossible. Elle explosera, nous prédit La Fontaine. Mais absence de finalité égale monstruosité. Parce que les créatures ne sont pas Dieu. Dieu est infini. Donc, il est inépuisable en lui-même. Nous sommes, même les démons, sont finis. Ils sont délimités. Ce sont pas des êtres divins. Ce sont seulement des êtres spirituels, surnaturels, c'est tout. Des anges. Et le monstre, c'est ça. Il est couleur rouge-feu. C'est la couleur de la colère. C'est le contraire de la paix. Le texte de l'Apocalypse nous dit que la femme... envoyé sur la terre, trouve un refuge au désert. Et c'est là où tous ses enfants viennent la rejoindre pour trouver cette oasis au milieu du combat avec justement les démons qui veulent nous perturber sans cesse, nous faire sortir de la logique du royaume de Dieu, de la verticalité, pour devenir platement horizontaux, ne voir que les hommes, que le monde de l'humanité, et cesser d'espérer un au-delà qui dépasse notre monde. Or nous, notre force de croyant, c'est justement de contempler au-delà de ce monde ce lieu de repos éternel qu'est le paradis. Et Marie nous le montre dans son Assomption. Le monstre, donc, c'est une espèce tout le contraire de la paix, donc une colère qui le ronge continuellement et qui le pousse à tout casser, à casser toutes les âmes. Et on voit bien la logique du monde qui nous entoure, hein. C'est un lieu de profondément triste, de plus en plus triste, de plus en plus violent, de plus en plus irrespectueux de la dignité de chacun. réduire les hommes à l'état de rouage au service d'une grande machine, voilà ce que veut faire le mal dans le monde. Au lieu de nous ouvrir à cette perspective de l'infini qu'est Dieu lui-même. Le drame, le mal, on pourrait le définir philosophiquement, je dirais, c'est le moment où une créature devient à elle-même sa propre fin. Elle se coupe de Dieu. Mais cette coupure, nous avertit le texte biblique, est éternelle. Alors, mesurons bien, disons bien aux autres, aux hommes, de bien mesurer ce que signifie se couper de Dieu. C'est se couper éternellement de la vie, de vivre dans un état fantomatique éternellement, cherchant sans cesse en soi-même des raisons d'être que nous ne trouvons pas. Des raisons d'être, nous ne les trouvons qu'en Dieu. Enfin, l'Assomption souligne un autre mystère, c'est celui de la mort. La Vierge Marie n'est pas morte, parce que la mort est définie comme une séparation de l'âme et du corps. Le Christ est mort. Pendant 3 jours, il a vécu la condition mortelle. Son corps a été déposé dans un tombeau. Puis, on le sait bien, il est ressuscité. Marie n'a pas connu cette séparation. Marie n'a pas connu les affres de la mort. Au moment de la mort, même les croyants ressentent forcément et fatalement l'angoisse de cette séparation. Pourquoi ? Même si leur âme est dans le repos et dans la lumière, le corps, lui, ne l'est jamais. Le corps, il est fait pour la terre. Et avant d'être glorifié, eh bien, il appartient à la terre. Et cette angoisse vient de notre corps qui crie, qui supplie que l'âme ne s'en aille pas. Parce que lui, si l'âme s'en va, il se dissout, il meurt. L'âme ne meurt pas, l'âme est transportée ailleurs. Mais cette angoisse, même le croyant doit la porter, le croyant doit, au moment de l'agonie en particulier, affronter cette dimension-là. Marie ne l'a pas affrontée. Et c'est le miracle de l'Immaculée Conception. Dieu nous dit à travers elle ce à quoi nous étions normalement prédisposés. Adam et Ève n'auraient jamais dû connaître la mort ni engendrer une humanité qui la connaisse. Alors, l'Immaculée souligne dans l'Assomption le fait que nous ressusciterons. C'est à nouveau, je dirais, une réactivation du dogme de la résurrection là, qui est souligné ici. Voilà toute cette grande fête. Tenons-nous au pied de la femme radieuse. Ne la perdons pas des yeux. Au désert de ce monde, désert de valeurs fécondes, dans un monde violent, dans un monde qui promeut les convoitises comme des divinités, comme des idoles, eh bien, allons au désert, celui de la prière, celui de la pauvreté, de l'équilibre, du strict nécessaire. Et nous trouverons là, eh bien, la force de combattre jusqu'au bout.